L'Ambersart en onde, c'est maintenant sur RPL Radio. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette 6e édition de L'Ambersart en onde. Trop contente encore une fois. Salut Victor.
Ouais, salut à toi Pauline, comment tu vas ?
Bah ça va super, écoute, je viens de le dire, trop heureuse d'être là. C'est le printemps, il fait beau, on peut se balader, on peut sortir.
On peut faire des reportages, on peut parler aux auditeurs, on peut continuer dans ce projet de L'Ambersart en onde.
Exactement, on peut se balader dans notre ville et ça c'est beau.
Ouais, c'est beau parce qu'il fait beau, tu l'as dit. Enfin aujourd'hui il y a quand même un petit peu plus, je sais pas si t'as vu les orages hier soir, là au moment où on tourne l'émission.
Mais... Alors confession, j'étais en PLS dans mon lit, j'ai peur de l'orage.
Donc il fait beau de temps en temps, hein, et on verra qu'ensuite les nappes phréatiques ont fait des dégâts, enfin la pluie a fait des dégâts dans la ville, donc on va dire qu'il fait enfin beau.
Ça y est, c'est l'heure, il fait beau.
Voilà, les journées rallongées.
Exactement, c'est l'heure d'autre chose aussi.
Et oui.
Le sommaire,
bien vu, quelle transition.
Et oui, on commence tout de suite avec les transitions, vous les aviez pas vu venir. Donc le sommaire, on démarre tout de suite.
Ce mois-ci,
on a un invité de qualité. Est-ce que tu veux l'introduire ?
Je te laisse l'introduire, vas-y, je sais que tu as envie de l'introduire.
C'est Frédéric Dehaze, ancien président de l'Union FC L'Ambersart, qui était en charge notamment de la fusion. On a parlé avec lui dans ce studio pendant de longues minutes, qui était très sympa, très agréable. On a échangé sur beaucoup de sujets. Et on vous a concocté une petite interview.
Voilà, on s'est dit qu'on allait refaire ça après celle du maire, qu'on allait repartir sur une thématique un peu plus approfondie.
Exactement, parce que ouais, le maire, ça s'était bien passé. On espère que vous avez pu l'écouter aussi.
Ouais, toujours disponible sur le site de la radio, je précise.
C'est ça. Et comme celle du maire, du coup, cette interview sera disponible en deux parties. On vous a fait un montage, un récapitulatif de 25 minutes, un best-of un peu, qu'on vous diffusera du coup en première partie de cette émission et le reste de l'interview sera disponible du coup en intégralité sur le site de RPL Radio.
La suite du sommaire avec un reportage. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une association dont vous avez parlé, on aura le temps d'y revenir le mois dernier, c'est les lundis qui chantent. Voilà, j'y suis allé en mars et donc on aura un petit format pour vous montrer comment ça marche et à quel point on peut chanter, peu importe son niveau, se retrouver. Donc ça sera juste après l'interview de Frédéric Dehaze.
J'ai hâte de voir et on enchaînera tout de suite avec un sujet un peu plus compliqué. On parlait de pluie en introduction et qui dit pluie dit inondation dans notre ville. Ces derniers mois, il y a eu des inondations assez importantes dans les caves lambersartoises. On a été vous rencontrer pour voir un peu ce qu'il en est et on parlera tout ça après.
On continuera avec une chronique assez emblématique dans cette émission, la chronique patrimoine. Est-ce que tu nous fais un petit avant-goût de ce que tu nous as concocté ou alors faut rester jusqu'à la fin de l'émission ?
Alors déjà, faut rester jusqu'à la fin.
Voilà,
et en plus, petit teasing, ça change de ce qu'on a fait d'habitude. On n'est pas sur le même style, on découvre un autre aspect de la ville et ça fait toujours plaisir.
Bah oui, on innove, c'est bien.
C'est ça, et on terminera avec, je pense, la chronique la plus importante parce qu'elle n'a jamais bougé en 6 émissions.
Sauf peut-être une. À la deuxième, peut-être, si je dis pas de bêtises.
Ah, peut-être.
Mais c'est très clairement la plus constante.
Elle est constante et elle est importante et on sait que vous l'adorez. C'est l'agenda du mois, que dire, que faire. On verra tout ça en fin d'émission. Et bah écoute, Victor, ça va être l'heure de commencer.
Et oui. On commence donc avec cette interview avec Frédéric Dehaze, donc l'ancien président du FC L'Ambersart, qui a activement participé donc à la fusion de l'Union Foot Ball Club L'Ambersart, le club que vous connaissez, donc l'unique club maintenant dans votre ville. Donc on lui a posé plein de questions et donc on vous propose de se plonger dans cette interview.
C'est ça, on vous laisse avec un enregistrement qu'on a réalisé il y a quelques jours, d'où les différences de son, de voix, de tout ça, mais on vous retrouve juste après.
Bonne écoute. Frédéric Dehaze, donc on va très rapidement commencer. Vous avez lancé la fusion entre deux clubs de foot à L'Ambersart, ou du moins participé activement. Et donc on voulait donc vous interviewer aujourd'hui sur pas mal de sujets, la fusion et aussi votre activité au sein de l'association. On a plein de questions aujourd'hui à vous poser.
Donc on va commencer sans plus tarder. Bonjour.
Bonjour.
Encore une fois, bienvenue dans nos studios à RPL Radio. On est ravis de vous avoir. On voulait résumer en quelques mots ce qu'est l'Union FC, mais on pense que vous le ferez beaucoup mieux que nous. Donc est-ce que vous pourriez le faire rapidement en deux phrases, vous présenter et introduire du coup l'association ?
Eh bien, pour me présenter, donc Frédéric Dehaas, j'ai 47 ans et je suis effectivement le premier président de l'Union Football de Lambersart, qui est né le 11 juin 2021 et qui est le fruit de la fusion entre les deux clubs historiques de la ville, d'un côté l'Iris Club de Lambersart et de l'autre le Football Club de Lambersart. Moi, je ne suis plus président à l'heure actuelle, j'ai été président entre le moment de la fusion, le moment de la création du club, jusqu'à mai l'année dernière, où j'ai décidé de démissionner. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, voilà, si je pense avoir répondu à votre question.
Parfait, merci.
Et donc à l'origine, vous étiez dans l'un des deux clubs avant la fusion, côté FC Lambersart, c'est ça ?
Oui, c'est ça. J'ai été élu président du football club de Lambersart en 2005 et j'ai été donc président de cette association pendant 18 ans. Un club qui était à l'origine issu d'un patronage, ce qu'on appelait un patronage de l'église Fatima. Le nom original d'ailleurs du football club était le Fatima Sport Football. Il a changé de nom en 84, si ma mémoire est bonne, pour devenir le football club. Et j'en ai pris donc la présidence en 2005. C'était un club essentiellement familial, avec vraiment les Lambersartois. On avait jusqu'à 80% de Lambersartois dans les effectifs. À l'inverse de l'Iris, qui était un club historique qui a d'ailleurs contribué à la création du LOSC à l'époque. Hein. Enfin, il y a vraiment un berceau, une histoire du football très forte au niveau de l'Iris, et qui était composé à l'époque majoritairement de joueurs extérieurs à la ville, à savoir 20% de Lambersartois, à peu près 80% de joueurs extérieurs. Ça s'expliquait notamment par la recherche permanente du haut niveau qui faisait partie de leur ADN et de leur histoire en fait.
D'accord, donc deux clubs avec des identités du coup très, très différentes.
Tout à fait, des identités très très différentes et à mon sens complémentaires.
Du coup aujourd'hui, donc vous avez parlé d'un peu de votre parcours au sein de l'association, aujourd'hui quel est votre rôle ?
Alors bah écoutez, dans l'association, dans le football, j'ai tout fait, je pense. J'ai été de bénévole aussi bien à la buvette que à la gestion du matériel, à éducateur, en passant par très occasionnellement arbitre, et puis donc trésorier, vice-président, puis président, ce qui a duré quand même un petit moment, comme je vous l'ai dit. J'ai démissionné de mes fonctions de président donc en mai, et aujourd'hui j'ai une licence de dirigeant, j'ai arrêté également d'être éducateur, j'ai pris un peu de distance, ne serait-ce que par respect pour les personnes qui ont pris ma suite, parce que je pense que je fais partie du conseil d'administration, donc je suis toujours très attentif à ce qui se passe et investi, puisque je suis par exemple, dans la vie professionnelle, je suis agent immobilier et je sponsorise tous les ans, je fais un don pour permettre au club de bien travailler. Donc, je suis sponsor de l'équipe première et de l'équipe 18 ans cette année. Mais mon rôle se limite à ça, ne serait-ce que parce que quand on prend une direction, etc., c'est toujours un peu compliqué quand le prédécesseur, il est toujours là. Donc, il fallait laisser la nouvelle équipe faire son travail, tout simplement.
On l'a vu sur notre club. Et pour revenir sur votre engagement, quelles sont les raisons ? Vous êtes un passionné de foot, on imagine, qui a envie de s'investir. Aussi, Lambersartois depuis toujours, vous l'avez dit, c'est un peu ces deux raisons-là qui se couplent et qui font que voilà, vous êtes super longuement engagé au service de ce club et de ces deux clubs.
C'est vrai que prendre la présidence d'un club de la taille du football club à l'époque, quand j'avais 28 ans, c'était quasiment du jamais vu sur le district, et surtout qu'on l'a amené, on l'a structuré, et c'est devenu un club de ligue, etc. Donc c'était une superbe aventure humaine qui a été possible grâce au travail de tous mes prédécesseurs. Hein. Je rends hommage d'ailleurs, je profite de ce micro pour rendre hommage à monsieur Jean-Paul Lefebvre qui est décédé récemment et qui a été le président qui m'a précédé et qui avait fait un travail lui aussi extraordinaire, comme beaucoup d'autres. Je pense aussi à Jean Bourrez ou des gens comme ça qui nous ont quittés l'année dernière. Donc effectivement, j'ai toujours été très très impliqué dans la ville. Je suis Lambersartois effectivement depuis toujours, et pour moi, le football m'a beaucoup donné en tant que personne, en tant qu'être humain, et les bénévoles de ce club d'ailleurs, du football club. Donc pour moi, c'était le fait de m'y investir, c'était une façon de rendre ce qu'on m'avait donné. C'est pour ça que l'engagement a été, je pense, aussi long et passionné. Voilà, après j'ai dû prendre des décisions pour rester en accord avec moi-même et je peux vous dire que ça n'a pas été très simple.
Et justement, on va en revenir. Pauline, je te laisse introduire.
Ouais, du coup, on va partir un peu sur donc, l'historique de la fusion, parce que vous l'avez évoqué, la fusion entre les deux clubs au début de cette interview. On voulait revenir un peu plus en profondeur dessus, donc on va commencer par le début. Donc, c'est en 2021 que les deux clubs ont fusionné, faisant de l'Ambersart un des plus gros clubs de la région. D'où vient le projet? Comment a-t-il été mené?
Alors en fait, la fusion à la base, c'était un peu un serpent de mer. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un même territoire, avoir deux clubs de cette importance, puisqu'ils étaient tous les deux à peu près entre 500 et 600 licenciés, c'était quelque chose d'assez incroyable et qu'on ne retrouve pas dans des villes de cette taille. Mais il y avait une telle différence d'identité que c'était compliqué à envisager. Et puis, il y a eu les élections municipales. Et le nouveau maire, Nicolas Bouche, nous a très clairement pas laissé le choix et nous a dit voilà, on vous laisse un an pour fusionner ou on vous supprime entre guillemets tous les deux et on met une nouvelle association qui redémarrera de zéro. Du coup, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire qu'on s'est mis tous à table avec nos divergences. Ça n'a pas été simple, il y a eu un travail de titan qui a été organisé en seulement un an, mais chacun a su faire ce qu'il fallait pour aller vers l'intérêt général et aboutir en moins d'un an finalement à réussir à faire cette fusion qui est, je crois, en termes de taille, sans précédent non plus. Et quand vous disiez qu'on était devenu l'un des clubs les plus importants des Hauts-de-France, non, c'était le club le plus important des Hauts-de-France, avec un effectif de près de 1000 licenciés. Donc là encore, c'est des strates qui n'avaient pas été atteintes. On était, de mémoire, dans les 15 premiers clubs en France sur 15 000 en termes d'effectifs, et le premier donc des Hauts-de-France.
Et donc sur le côté pratique, comment garder l'identité des deux clubs? Parce que vous l'avez dit, le côté élitiste, le côté plus familial de l'autre, tout en créant de la nouveauté, comment ça a marché?
On avait réussi à faire un truc pour moi extraordinaire, c'est-à-dire qu'on avait fait deux sections, une section élite et une section classique, entre guillemets, qu'on appelait formation. Et donc vous aviez, en fait, l'enjeu dans ce genre d'association, c'est le recrutement. Comment on intègre des jeunes dans nos effectifs? Et donc la section football avait pour mission d'intégrer tous les Lambersartois, donc on gardait l'esprit famille, et on avait une section élite par catégorie d'âge à partir des U12, c'est-à-dire l'entrée au collège, là où il y a des sections sport-études, de manière à préparer pour chaque génération, logiquement, une équipe qui évolue en élite, c'est-à-dire en ligue, le plus haut niveau possible, voire au niveau national si on y arrivait, et une équipe qui restait au niveau district, de manière à ce que les enfants de Lambersart puissent continuer à jouer, quel que soit leur niveau, quelque part, de débutant jusqu'à senior. Voilà le projet d'origine tel qu'on l'a monté et tel qu'on l'a lancé la première année.
Bah, du coup, là, on va partir un peu sur un point que vous avez évoqué avec moi avant le début de cette interview.
Oui.
Vous aviez parlé dans les pages de La Voix du Nord des problèmes de subventions pas assez importants selon vos mots. Quelles étaient vos attentes? Quelle a été la réaction de la mairie? En quoi consistaient du coup ces problèmes de subventions?
La difficulté était essentiellement les difficultés de fonctionnement. Aujourd'hui, avant la fusion, on est arrivé un petit peu aux limites. Les deux clubs étaient évolués au niveau ligue avec un niveau de subvention faible par rapport à ce qui se passe dans les autres villes des Hauts-de-France et de France. Et donc, on pourra en reparler, mais pour moi, il y avait tous les week-ends une vraie prise de risque par rapport notamment aux enfants. On aura l'occasion d'aller plus loin là-dessus, j'ai aucun souci là-dessus. Et donc, si vous voulez, le projet était global. Oui, on réunissait les deux clubs, mais un, il y avait une remise à niveau absolument nécessaire des installations qui sont indignes d'un club de football, très clairement de ce niveau-là. Et il y avait un accompagnement financier qu'on demandait juste à hauteur de ce qui se fait d'à peu près comparable, puisque rien n'était comparable. On était le premier club des Hauts-de-France. Mais pour vous donner un ordre d'idée, et en termes de niveau de compétition, à part les clubs professionnels, on était les premiers aussi, puisque toutes nos équipes premières évoluaient en Régional 1 la première année. Et donc, tout simplement, il n'y avait pas d'équivalent. Aucun club, ni Wascal, ni Marc-en-Barœul, ni Croix, ne proposait un niveau de compétition aussi élevé. Donc, il fallait nous accompagner structurellement et financièrement. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui était partagé. Et j'ai eu la tristesse de constater que ce n'est pas ce qui s'est passé dans les faits.
Et cela a débouché finalement sur votre démission, c'est la cause numéro une.
Oui, très clairement, c'est-à-dire que pour parler chiffres, si vous voulez qu'on soit dans le détail et dans le concret, quand on regarde des clubs comme Marc-en-Barœul, Croix ou Ascal, le niveau de subvention va se situer au moins à 100 000 euros. Enfin, c'est bien plus, c'est 120, voire plus. Tourcoing, c'est 250 000 euros. Vous voyez, et pour des clubs qui n'ont pas autant d'effectifs et qui n'ont pas autant d'équipes en R1, ce qu'on appelle la R1 à l'époque. Donc, nous, on était partis sur un postulat de départ, de dire que pour fonctionner dans le minimum du minimum et en mettant tout le monde en adéquation avec les attentes de la Fédération française de football, mais aussi en sécurité pour les déplacements, il fallait 100 000 euros. C'était un diagnostic partagé et il y avait au moins un engagement oral et moral de la commune là-dessus. Il y avait également l'engagement de refaire les installations, puisque on a des terrains synthétiques qui sont dans un état absolument déplorable. Et le clubhouse de Guy Lefort, qui est, j'y mettrai pas mes animaux domestiques le week-end, quoi. C'est honteux. Donc, et il y avait un engagement de refaire les deux terrains, refaire le clubhouse, et nous accompagner à hauteur d'environ 100 000 euros chaque année.
Et combien vous avez reçu, enfin le club a reçu, c'est 60 000 euros environ d'après ça ?
65 000 précisément. Okay. Donc il y avait un delta de 35 000 euros entre ce qui était prévu et annoncé et ce qui a été finalement.
Et justement sur cette fusion, si c'était à refaire, est-ce que vous l'auriez refait finalement ou avec autant de. Là on entend un peu votre déception sur le manque de financement, etc. L'autre projet c'était quoi ? C'était fusion ou sinon on repart de zéro, est-ce que ça n'aurait pas été la meilleure solution ou...
Bah vous savez, pour atteindre le niveau ligue, que ce soit en senior, que ce soit... Ce qui fait l'attrait d'un club, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des clubs dans toutes les villes. Sur un rayon de 5 km, vous savez, il y a pas très longtemps, il y a des personnes qui parlaient du hockey, parce que le hockey à Lambersart joue la Coupe d'Europe, etc. Et c'est super, je connais bien Laurent Frappard, qui est le président de ce club et qui fait un travail formidable depuis des années. Mais à un moment donné, il y a des personnes qui voulaient se risquer à comparer ce qu'ils arrivaient à faire, etc. Il y a, je crois, 20 000 pratiquants de hockey en France. On est 2 millions passés au niveau du football. Ça veut dire que la population des pratiquants du hockey se retrouve dans la métropole. Donc, tout ça pour vous dire que le choix des pratiquants, il n'y a pas de club à Lambersart, ils peuvent aller jouer à Saint-André. Vous voyez, ils peuvent aller à l'Homme. À l'Homme, il y a deux ou trois clubs. Enfin, il y a énormément de possibilités. Donc repartir à zéro, qu'est-ce qui fait qu'un joueur va choisir un club ? C'est pas l'attrait et l'appartenance à la ville, ça va être le niveau de compétition et le niveau d'encadrement qui est proposé. Donc partir de zéro, avec des moyens qui permettaient d'avoir des encadrants super top, pourquoi pas ? Mais partir de zéro, avec en plus le maintien des moyens qu'on a, c'était n'importe quoi. Et puis il y a aussi une histoire. Pour arriver au niveau ligue, il y a quand même des gens qui se sont investis corps et âme dans ces deux clubs pendant des années. C'était insulter l'histoire, à mon sens, de vouloir supprimer les deux clubs. Donc il fallait, on n'avait pas le choix, faire cette fusion. Alors est-ce qu'on le referait ? De toute façon, on n'avait pas le choix. Donc,
ouais, donc c'était une nécessité.
C'était un impératif, c'était ça où ça disparaissait. Est-ce que je suis heureux et épanoui, footballistiquement parlant, 2 ans après la fusion, 3 ans après la fusion ? Moi, non. Et je pense qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de déceptions. Maintenant, on n'est pas éternel, on n'est que de passage, et il y a une super équipe qui a pris la suite. Et je trouve que ce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, puisque le problème des moyens reste le même, est extraordinaire.
Et du coup, est-ce que cette fusion, a permis un progrès au niveau des résultats de compétition, a permis des avantages pour les deux clubs ? Parce que vous entendre, on dirait que c'était vraiment compliqué et que ça allait toujours. C'est quand même des points positifs à cette fusion.
Écoutez, sincèrement, dire qu'on a progressé au niveau du niveau de compétition, ce serait dire des bêtises, puisque on était déjà au maximum possible. Si on aurait pu prétendre aller jouer en national avec certaines, générations, mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, non. Ce que je peux vous dire, c'est que 3 ans après la fusion, moi, quand je suis parti, vous savez, la fédération décerne des labels de qualité sur ce que vous pouvez faire, donc vous candidatez et vous êtes reçu à différents labels. Donc on a le label argent pour les féminines. Quand je suis parti, on était label bronze et on avait déposé pour label argent. Et c'est donc maintenant le label argent au niveau des féminines. Donc c'est super.
Et ça récompense quoi précisément le label?
La qualité de l'encadrement, la promotion du foot féminin, le fait qu'on joue à un certain niveau, donc, et qu'il y ait un projet qui soit cohérent sur les féminines. Donc ça c'est super, c'est une vraie fierté. Et puis surtout le label élite au niveau de la formation des jeunes, donc c'est ce qui se fait de mieux. Et donc quand je suis parti, on savait, il y a un travail de plusieurs bénévoles qui se sont vraiment investis là-dessus avec l'ensemble de la direction du club. Et aujourd'hui, je crois que Lambersart peut être fier, et j'espère que c'est le cas, d'avoir un club qui est élite au niveau de sa formation et argent au niveau des féminines. Et ça, on le doit à l'équipe qui est en place, hein, et notamment, maintenant, j'ai mon successeur qui s'appelle Robert Terrasse, et qui, avec son équipe, a permis de finaliser tout ce travail qui a démarré dès la fusion, en fait.
Et alors, justement, quelles sont leurs ambitions maintenant? Vous qui êtes dirigeant, vous devez peut-être un peu suivre ça de derrière, mais quelles sont les ambitions pour la suite, pour les prochaines années, composé avec ce qu'ils ont au niveau budget?
C'est ça, je dirais que les ambitions vont être liées aussi aux moyens, évidemment. Donc moi je suis le premier pour dire qu'on ne doit pas attendre de la municipalité d'être un espèce de fournisseur de fonds. On sait que c'est difficile pour eux aussi, de leur point de vue c'était impossible de tenir les engagements initiaux, parce que la ville, quand on les écoute, n'a plus d'argent. Je ne partage pas personnellement cette vision, mais c'est pas le club, c'est moi. Je pense que c'est une question de choix. Donc le club aujourd'hui, il gère avec les moyens qui sont les siens. Ils essayent de développer aussi le sponsoring, puisque c'est une façon de pouvoir rentrer de l'argent. J'ai moi-même contribué d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais la crise économique, elle est là pour tout le monde. Et en plus, c'est pareil, quand vous allez démarcher des entreprises pour éventuellement sponsoriser un club, les clubs de football, il y en a plein. Et du coup, la concurrence, elle est féroce. Là où je reprends l'exemple du hockey, encore une fois, avec beaucoup d'admiration pour ce qui est fait et la dynamique qu'il y a là-bas. Mais si vous aimez le hockey, par exemple, vous dites, tiens, je vais sponsoriser du hockey, de toute façon, des clubs, il n'y en a pas énormément dans la région. Alors que si vous faites du football, il y en a 50 sur 10 km², quoi.
Ce micro de RPL Radio, on est sur Lambersart en ondes. On continue avec vous, Frédéric Dehaze, sur maintenant une partie centrée aussi sur l'entraînement des équipes, les ambitions. On a encore quelques questions à vous poser. Alors, les entraînements, on en avait parlé, ça se répartit entre les deux complexes,
oui.
Finalement. Et là, on a une question plus précise. Vous vouliez faire donc de l'Union un club ouvert à tous. On évoquait l'idée donc d'avoir plus de 1000 adhérents. Et pourtant, la jauge a été baissée. Est-ce que vous n'étiez pas un peu trop optimiste de...
Ah non, pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, on aurait même pu être au-delà de 1000. Je pense qu'on avait un potentiel à 1200 pour moi, on avait vraiment étudié les choses. Sauf que entre le budget qui était prévu et les installations qui étaient en face, par exemple, dans le nouveau clubhouse, on était censé avoir un bureau pour les permanents. On était censé aussi avoir de meilleures conditions de stockage de matériel. Tout ça, c'est des problématiques extrêmement importantes qui n'ont pas été résolues à ce jour, même si je ne dis pas que la municipalité n'a rien fait, notamment sur le stockage du matériel à Lefort, elle a donné quelques possibilités supplémentaires. Mais on est quand même très très loin de ce qu'il faudrait pour être au minimum dans la dignité de l'accueil des personnes, notamment au niveau du clubhouse. Sincèrement, le clubhouse, c'est un sketch. Donc, si vous voulez, il a fallu réduire la jauge pour réduire aussi le risque de problème, parce que qui dit moins de subventions de fonctionnement dit moins de possibilités de déplacement, moins de possibilités d'encadrement. Et il y a un moment donné, vous savez, quand vous avez une équipe qui joue en ligue à un très haut niveau, que vous dites tiens, je cherche un éducateur, vous avez 50 CV de personnes qui voudraient encadrer cette équipe. Quand vous dites je fais une équipe de district avec des joueurs qui ne savent pas trop jouer, mais enfin l'idée c'est qu'on puisse leur permettre de jouer, les diplômés disent moi je m'en fous quoi. Donc du coup il faut que le projet global les accueille et que les subventions permettent soit de payer les formations, etc. Et là c'est avec la subvention octroyée par la ville, c'est impossible. Donc du coup la seule solution qui était possible, c'était de réduire les effectifs pour limiter les problématiques d'encadrement, en fait.
Merci pour cette réponse. On arrive doucement à la fin de cette interview. Il nous reste encore quelques questions.
Oui.
On voulait parler un peu de foot féminin. Où en êtes-vous? C'était revendiqué comme un des objectifs de développement du club.
Bien sûr.
Où en êtes-vous au niveau des équipes féminines?
Ça se passe bien. Les équipes féminines jouent à un bon niveau également, en régional également. Le foot féminin, encore plus, je dirais, que le foot masculin a besoin d'encadrants de qualité. Et on revient à la même équation, hein, les moyens mis à disposition. Ce n'est pas un hasard si le club anciennement de Bousbecq, qui maintenant est à Roubaix, etc., a réussi à développer des équipes qui jouent à un très très bon niveau, ben parce qu'il y avait une concentration de moyens sur une seule équipe, avec notamment un président qui a fait un travail apparemment assez exceptionnel avec un carnet d'adresses pour concentrer les moyens et les sponsors. Donc, ce qu'on retrouve sur le foot, les difficultés du foot masculin sont les mêmes sur le foot féminin. Il y a un véritable enjeu parce que je pense que le foot féminin doit continuer à se développer et j'espère que ce sera le cas, mais c'est l'ambition des dirigeants qui se battent pour ça.
Et actuellement, quelle part, sans donner de chiffres précis, quelle part représentent les équipes féminines au sein du club?
J'ai pas le chiffre, mais je dirais 20%, mais je préfère avoir vraiment beaucoup de prudence sur le chiffre que je vous annonce. Là aussi, j'aurais pu avoir quelque chose de précis. Mais voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a un décalage pour l'instant entre la fédération qui impose au club pour avoir certains labels de développer le foot féminin et tout simplement la demande des filles qui certes sont de plus en plus nombreuses, mais de là à remplir les effectifs de tous les clubs qui souhaitent se structurer, c'est pas facile. Donc on a un phénomène, moi que j'avais observé en partant, qui est un peu un phénomène de groupe, où vous avez un groupe de copines qui arrive dans un club qui va jouer, etc. Et puis si le club ne répond plus à leurs attentes pour x ou y raison, le groupe entier va se déplacer et va aller dans un autre club qui est ravi de les accueillir parce que de toute façon il manque de l'effectif. Et du coup, quelle que soit la qualité finalement du travail qui a pu être fait dans le club initial, parfois ils ne peuvent pas repartir l'année suivante parce qu'il leur manque de l'effectif. Donc c'est dommage, j'espère, c'est pour ça qu'il faut en fait développer encore plus pour moi le foot féminin pour très vite arriver au fait que le foot féminin se démocratise de plus en plus et que ce soit une option. On entend encore trop souvent des parents dire « Oh, c'est une fille, elle va quand même pas faire du foot, quoi. » Voilà, c'est un peu dommage.
Et pour le mot de la fin, quel est votre objectif à vous avant d'en venir à ceux de l'Union Foot? Est-ce que vous allez continuer de vous impliquer dans les prochaines années? Revenir un jour
le fameux comeback.
Ouais.
Je vous cache pas que...
Parce qu'on vous sent voilà, très attaché forcément avec toutes ces années passées. Il y a aussi cette envie de professionnaliser, enfin, de structurer encore plus le club. Il y a du potentiel. C'est quoi, vous, vos ambitions à court et long terme?
Vous savez, ma seule ambition personnelle dans un avenir proche, c'est de voir le club continuer à exister et à progresser. Et moi, je n'y fais, au regard de ce que j'ai pu faire par le passé, je n'y fais plus grand-chose. Je suis un simple et très modeste dirigeant. Si on me demande un coup de main ponctuellement demain, je le donnerai. Il se trouve que j'ai des enjeux personnels, professionnels, qui font que j'ai moins de disponibilité que je n'en ai eu par le passé, parce que comme j'avais quitté le club, j'ai pris d'autres paris, d'autres fonctions. Donc, ma petite personne n'est pas très intéressante. Moi, j'accompagne quand je peux. J'ai un fils qui joue encore là-bas et j'en ai un autre qui va peut-être démarrer dans un an ou deux. Donc, j'ai un petit. Donc, si ce petit-là est attiré par le ballon, peut-être que oui, j'y retournerai, mais pour donner un petit coup de main comme je l'ai toujours fait, parce que vous savez, le bénévolat, l'implication associative, c'est un ADN quelque part. Moi, je ne sais pas aller quelque part. Par exemple, je vais dans n'importe quelle association, parents d'élèves, machin, tout ça. La réunion se termine, je reste pour ranger les chaises. Vous voyez, c'est un truc qui peut paraître tout bête, mais la plupart des gens aujourd'hui consomment les associations, de football comme ailleurs, et ils pensent que c'est quasiment une entreprise et qu'ils ont des droits et aucun devoir, quoi. Donc voilà. Donc moi, à titre personnel, pour répondre très clairement à votre question, je ne me refuse aucune possibilité. J'ai été aussi dans des clubs pro pendant quelques années au recrutement. J'ai notamment participé au recrutement de Raphaël Varane à Lens à l'époque. Donc vous voyez, si vous lisez la biographie de Raphaël Varane, je suis cité deux fois. C'est mon titre de gloire. Mais Mais moi je me refuse rien, mais j'ai pas d'attente. Mais bien entendu, j'espère, je porte le vœu que le club ait vraiment une évolution, l'évolution qu'il mérite, ne serait-ce que pour les bénévoles qui s'y investissent.
Merci beaucoup d'avoir passé du temps ce temps-là avec nous en studio et d'avoir répondu à nos questions.
C'est un plaisir.
Merci à vous.
On va conclure du coup sur ce point-là l'interview. Merci donc encore une fois d'être venu dans l'Ambersart en ondes, cette 6e édition. On espère que ça aura intéressé nos auditeurs et que ça vous aura plu aussi de passer ce moment avec nous.
Avec plaisir, oui, c'était un vrai plaisir.
Et donc merci à Frédéric Dehaze, hein, l'ex-président de l'Union Football Club L'Ambersart, d'avoir répondu à nos questions. Pauline, tu l'avais dit en intro, l'intégralité de l'interview sera retrouvée sur le site de la radio. Là, on vous a laissé une partie plus sur la fusion, on peut dire, et tout le reste, plus de détails sur le club, donc sur le site de la radio, c'est bien ça.
Exactement, on est vraiment resté sur la fusion, un événement marquant quand même pour notre ville, puisqu'il l'avait dit pendant l'interview, on parle de plus de 1000 licenciés au total, donc je pense que vous serez assez nombreux à être intéressés donc, par la suite de cette interview, à retrouver sur le site, et voilà. Et encore merci à lui d'être venu nous retrouver.
Pour sa disponibilité.
Ouais. On enchaîne ?
On enchaîne avec donc une pause musicale. On va parler d'une artiste française qui est, je pense, la plus connue parce que c'est la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. Hein. À votre avis, de qui s'agit-il ? De Aya Nakamura.
Et oui, on parle beaucoup d'elle en plus en ce moment.
Et oui, avec les JO, la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, on vous propose de découvrir l'un de ses derniers titres. Hein. C'est un feat, je crois, avec Trinix, si je ne dis pas de bêtises. C'est Corneille de Aya Nakamura. Bonne écoute sur RPL Radio.
Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je te vois, je le déduis de ton style flash, laisse ton cœur froid. De toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Mon angle est bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. Quand je te chante, c'est avec eux que j'admire si tu permets. Crois-moi, car c'est ta place qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec place que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois.
Écoutez sur RPL Radio, l'émission L'Ambersart en ondes, la chanson d'Aya Nakamura qui s'intitule Avec classe et donc qui est en feat, hein, je me reprends parce que j'avais omis de le dire, donc de Corneille et de Trinix. Ça fait plaisir de passer un peu d'Aya Nakamura parce qu'elle va faire l'actualité, hein, avec les JO.
C'est clair, on en entend beaucoup parler et puis surtout j'adore ses musiques, le style et moi tout aussi. Ça donne envie de danser, c'est cool.
Moi aussi. Et puis celle-ci, c'est l'une de ses plus récentes, hein, très clairement. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer pour les JO. Je crois qu'elle va interpréter une chanson d'Edith Piaf, si je ne dis pas de bêtises.
Il a été question de ça et j'avoue que je n'ai pas du tout suivi.
Mais on aura le temps d'en reparler.
On aura le temps de le voir.
On vous fait découvrir, redécouvrir des chansons sur RPL Radio. C'est ça aussi qui est cool. La suite du programme, Pauline, on avance dans l'émission.
Et oui, on avance avec notre premier reportage et on reste dans un thème musical. Parce qu'on s'est dit que c'était plutôt sympa pour cette 6e émission et l'arrivée du printemps. Tu es parti rencontrer une association dont on avait parlé à l'édition précédente. On avait passé une pastille qui parlait de cette association. Et tu t'y es rendu voir un peu ce qui se passe au Lundi qui chante. C'est ton reportage et c'est tout de suite sur L'Ambersart en ondes.
RPL Radio.
Cette mélodie vous dit sûrement quelque chose, je vous donne un petit indice, c'est l'une des plus célèbres d'un ancien chanteur-compositeur décédé en 2016 d'un cancer de la gorge, Michel Delpech. Elle était au menu des Lundis qui chantent le mois dernier au centre Jules Maillot à L'Ambersart.
Pour un feu avec toi, je ferai n'importe quoi, pour un feu, tu le sais.
Vous l'aurez sans doute reconnu pour un flirt de Michel Delpech.
Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi.
Les participants ont donc essayé d'interpréter pendant près d'une heure cette chanson, un piano, des voix et de la joie. L'idée vient à l'origine du célèbre musicien César Geoffrey. C'est lui qui a créé à Cœur Joie autour des années 50, une association de chants chorales amateurs qui s'est développée partout en France. Et des dizaines d'années après, on chante encore à Lambersart. Léonard Danel, le président de l'association, rappelle son fonctionnement.
Des chorales qui soient très ouvertes et très faciles pour le grand public. On n'a pas besoin ni d'être compétent, de savoir dire le solfège, d'avoir une inscription, d'y venir chaque semaine. Et donc c'est un principe très ouvert. Il y a une chorale chaque mois, le quatrième lundi de chaque mois. Vient qui veut, on vient comme on veut et quand on peut. Et c'est ultra simple pour l'inscription, puisqu'on achète sa partition. En fait, c'est une cotisation de 2 euros, c'est pas grand-chose. Hein. Et c'est libre de tout engagement, voyez.
La partition change tous les mois. Les participants ont pu s'essayer à Michel Delpech et Céline Dion en mars. Le tout sous la direction d'une chef de chœur. C'est une femme, elle s'appelle Catherine Mille. Elle accompagne toutes les voix de la chorale, distille ses conseils pour créer un ensemble harmonieux et uni. Avec ce soir-là, trois pupitres, les ténors chez les hommes, donc les voix les plus aiguës, les sopranes et les altis chez les femmes, 37 voix au total, dont une écrasante majorité de dames.
Toutes les chorales, c'est un peu la pièce rare, l'oiseau rare, c'est les hommes. On a un peu de mal à avoir un volume important d'hommes dans les chorales. Bon, c'est un peu partout pareil.
Des voix confirmées ou débutantes, nous précise Catherine, la chef de chœur.
Je trouve que c'est extrêmement mélangé. Il y a des gens que je vois à chaque fois, qui sont là depuis longtemps, vraiment des piliers. Et puis après, il y a plein de gens qui gravitent. Ça permet aussi cette formule à des gens qui ne peuvent pas s'engager dans la durée ou dans la régularité, de venir une fois de temps en temps et de chanter en polyphonie. Ça permet à d'autres de découvrir aussi le chant choral. Parce qu'en fait, c'est pas toujours simple de pousser la porte d'une chorale en disant « je vais aller chanter », on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Là, ça permet de faire ses expériences et de goûter à ça, quoi.
Léonard, comme Catherine insiste, cette chorale est ouverte à tous. Elle accueille des Lambersartois et habitants des alentours. Vous pouvez donc venir découvrir votre voix, entendre celle des autres en arrière-plan. Et ne vous inquiétez pas si vous êtes débutant, les titres sont adaptés.
Je choisis des chants qui ne soient pas trop difficiles. Souvent, même des fois, je simplifie parce que sur une heure de temps, on a assez peu de temps pour peaufiner, quoi. Et donc, des chants qui soient... Alors, souvent, j'essaye de mélanger un chant connu et un chant pas connu, de manière à ce que tout le monde ait un peu la découverte, parce que chanter, c'est sympa. Apprendre un contre-chant, c'est bien aussi. Mais quand c'est un chant trop connu, c'est plus difficile pour celui qui n'a pas le chant, quoi. Donc, en fait, il en faut un peu pour tout le monde, pour donner envie à chacun de revenir.
Alors, si vous êtes tenté par l'aventure, à vos agendas. Prochain rendez-vous fixé le lundi 27 mai, de 20h à 22h, au centre Jules Maillot, rue Champêtre, à Lambersart.
Franchement, on a chanté avec eux là dans le studio, c'était formidable. T'as dû bien aimé ce moment, ouais. Là-bas, ça avait l'air sympa.
C'était assez rapide parce que c'est entre 20h et 22h et ça va vite finalement, mais c'est sympa de voir un peu l'organisation d'une association lambersartoise, assez atypique, une chorale.
Ouais, c'est clair.
Et puis surtout, d'après ce que disait Léonard Danel, donc, qui est le président, qui a repris la main après le départ de Jean-Marie Roger, il expliquait qu'il y avait très peu de chorales de ce type-là et que c'était l'une des seules et que la majorité des gens, bon, il y avait des Lambersartois, mais des habitants aussi des alentours. Hein. Je pense à Catherine Mille qui habite Quesnoy-sur-Dole, il me semble, donc autour de Lambersart. Donc c'est pas exclusivement Lambersartois comme association. Lambersartoise, mais voilà, on a pas mal de gens qui viennent, donc c'est sympa. Et puis le concept est cool et il est mis en avant par les participants, de dire il n'y a pas une adhésion obligatoire, on vient au mois, on vient participer, on prend sa partition, et si jamais le mois suivant on n'est pas là, c'est pas grave, il n'y a pas un engagement constant. Ce soir-là, donc, qui était le 25 mars pour être tout à fait précis, il y avait 38 personnes, donc, okay. 35 femmes et 3 hommes. Donc c'était intéressant au niveau des voix, les ténors, les hommes, ils étaient trois, les femmes, il y avait un petit décalage, et donc les ténors devaient essayer de chanter par-dessus. Donc non, c'est cool de faire des découvertes d'associations comme celle-ci.
Ouais, c'est clair. Et puis, je sais plus si tu l'as dit dans le reportage ou pas, mais ça fonctionne sur inscription. C'est comment pour
Oui, c'est ça. En fait, faut envoyer un mail à l'association donc des lundis qui chantent pour avertir de sa présence. Et sur place, on paye la partition, donc qui est de 2 euros. Et ensuite, on peut donc participer pendant 2 heures. En fait, il y a un échauffement, on s'en doute, hein, échauffement de 5-10 minutes avec donc ouais. Catherine Mille, la chef de chœur. Et donc, une heure par partition. Et donc, vous savez, le jour même, la partition, vous ne connaissez pas à l'avance.
Oui, il y a un peu de suspense en plus.
Voilà. Donc, et c'est ouvert à tous. Hein, voilà. Et Catherine, donc, la chef de chœur, distille un peu ses conseils, etc. Il y a une très bonne ambiance. Et ce qui est intéressant, c'est que les Lambert-Sartois et les participants, finalement, se découvrent et passent du bon temps ensemble. Donc, une vraie belle découverte, une fois de plus, avec cette émission donc, de Lambersart en Onde.
Quelle est riche, cette ville de Lambersart.
Eh oui. Un réservoir d'associations.
C'est formidable. Il est temps de passer à un sujet un peu plus sérieux. On arrête de chanter, là, maintenant. Parlons des inondations.
Eh oui, des inondations à Lambersart. On suppose que les auditeurs ont eu des problèmes, du moins ceux qui ont des caves.
Ouais, vous devez à peu près tous être au courant que depuis la mi-janvier, début janvier même, beaucoup de caves ont commencé à être inondées liées à plein de raisons qu'on évoquera juste après. Et on a été du coup vous rencontrer, pour introduire un peu ce sujet, on a été vous rencontrer, voir un peu ce qui s'était passé dans vos caves. Et c'est tout de suite.
Je suis assez accro à Facebook et j'étais sur le site Nous sommes Lambert-Sartois. Et je vois un monsieur qui écrit « Suis-je le seul à avoir de l'eau dans ma cave ?» Et j'ai vu à peu près 80 réponses. « Telle rue, j'ai de l'eau. Telle rue, j'ai de l'eau. » Et « Avenue Bécard, il y a de l'eau. » Et là, je me suis levée d'une traite de ma chaise et j'ai pu constater effectivement que ma cave, j'avais des paquets de papier toilette qui flottaient. Voilà, la grosse surprise, j'ai dû commencer à y couper avec des ramasses poussières, un seau, des ramasses poussières. Et j'ai fait ça une fois, 20 seaux de 10 litres. Voilà.
Depuis le début de l'année, il y a des caves inondées. Hein. Mais ça, c'est peut-être des caves qui sont plus profondes. Les mêmes caractéristiques de montée des eaux qu'il y a 15 ans.
Il y a 20 ans, on a été inondé. Et suite à ces inondations, notre maire Marc-Philippe Daubresse a créé ce bassin de rétention, a demandé à la MEL de faire ce bassin de rétention.
Parce que le principe, c'est qu'il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol, il y a les premières couches d'eau. Et après, il y a la nappe phréatique. Mais les premières couches étant saturées d'eau du fait des pluies, ça ne s'infiltrait plus. Quoi. Donc c'est pour ça que ce pompage y était nécessaire, absolument nécessaire.
D'accord.
Moi, c'était 20 cm. C'était identique à deux maisons au-dessus qui avaient le même niveau. Donc on tournait à 20 cm.
Non, mais ils pompaient pour toute la rue. On avait une pompe très puissante et tu pompais plusieurs fois par jour. Au début, au moins 6 fois.
Moi, une petite dizaine en face. J'avais commencé par pomper tous les jours et tous les jours, ça remontait à 10. Et après, je dis stop, j'arrête de pomper et c'est resté toujours à 10.
Un grand merci du coup à Chantal, Evelyne, Samy et Eric qui nous ont accueillis chez eux pour parler de ces inondations. On a été les rencontrer du coup il y a quelques jours et petite information de dernière minute. 3 jours avant qu'on vienne les voir, les inondations se sont arrêtées. Mais du coup, à quoi sont liées ces inondations? Parce que c'est le deuxième épisode en 15 ans. Et donc ça faisait 15 ans que ça n'était pas arrivé, des inondations comme ça. Et pourtant, des pluies depuis, il y en a eu. Mais à quoi sont-elles liées?
Une chose est sûre, c'est la pluviométrie. Après, reste à savoir...
C'est clair que la pluie a bien joué.
Et le facteur numéro 1, il y a en fait deux visions qui s'opposent. Celle des riverains qui estiment que c'est la pompe qui est donc située à proximité, comme on l'a entendu dans le son, des habitants et notamment de Eric, Evelyne et Samy. Donc ils ont une pompe à proximité et pour eux c'est la pompe. Et la mêle explique de son côté, Pauline, que c'est pas finalement la pompe, mais plutôt le niveau un peu inédit de pluviométrie qui est tombé sur l'Ambersa et ailleurs, hein, sur la métropole lilloise ces derniers jours.
C'est ça, parce qu'en fait, à côté des habitations à Lambersart, depuis la dernière inondation de 2008, comme ce qui était expliqué dans le son, il y a un bassin de rétention qui a été mis en place. Avec ce bassin, il y a des pompes. Une de ces deux pompes était tombée en panne. Selon les dires du coup d'Eric, notamment Eric, Evelyne et Samy, 3 jours après la panne de cette pompe-là, les inondations ont commencé à arriver. Donc ils font le lien évident avec, avec ces inondations. Et 3 jours après le rétablissement de la pompe, les inondations se sont arrêtées et l'eau a quitté la cave. Cependant, selon la mairie, qui précise que ce n'était pas dans ses capacités de réparer la pompe, mais dans celle, enfin, mais c'était les capacités de la métropole lilloise, ces inondations étaient liées à la pluviométrie très élevée depuis novembre qui a fait augmenter le niveau des nappes phréatiques, touchant du coup les caves. Donc je pense que les deux version sans mêle, je vais réussir à parler. Et voilà, mais donc ça a créé un gros débat, notamment des riverains. Il y avait Chantal, la première dame qu'on a pu entendre dans les sons, qui aurait voulu, qui réclamait en tout cas une aide de la part de la mairie, ne serait-ce que pour pomper.
Ouais, parce que c'est compliqué, ouais.
Bah, c'est ça, surtout, elle, à son âge, c'est ce qu'elle nous expliquait, qu'elle avait dû descendre plusieurs fois avec des seaux d'eau dans sa cave. Donc ça a posé de réels problèmes au quotidien pour certains d'entre vous. Et Evelyne, Samy et Eric aussi, ils déploraient un autre élément que je trouvais intéressant, c'est le fait qu'ils ont dû tous acheter une pompe personnelle pour du coup gérer les problèmes dans leur propre garage, ce qui, au niveau environnement, on peut l'admettre, et ils l'admettent aussi, n'est pas la meilleure des solutions. Donc ils auraient aimé aussi que la mairie fasse quelque chose à ce niveau-là, selon leur dire, c'est pour ça aussi qu'on en parle, bien que du coup ils n'auraient pas pu réparer la pompe.
Oui, donc c'est un problème qui finalement pourrait revenir si jamais la pompe rend l'âme. Mais voilà, après c'est compliqué de prendre position sur le sujet. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, Pauline, deux visions qui s'opposent. Mais l'essentiel est que la pompe ait été réparée finalement.
C'est ça. Et d'ailleurs, le maire, dans un communiqué, prévenait sur les risques de reproduction de ces phénomènes-là. Parce que mine de rien, on le sait tous, et malheureusement, le climat n'a pas prévu de s'améliorer sur les prochaines années. Et des pluies fortes et des problèmes climatiques, on va en avoir. Et donc le maire alertait et demandait aux habitants, pour ceux qui le peuvent, de procéder à des réparations, à des mises aux normes et tout ça de leur cave. Après, selon les moyens de chacun, c'est plus ou moins facile à dire.
Ouais, surtout que les pompes peuvent coûter, je ne sais pas, mais peut-être un certain budget pour les ménages. Donc, voilà,
oui, cas, et les réparations de cave aussi, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr aussi, parce qu'on imagine, je ne sais pas si on l'avait tout mis dans le son de la pastille, mais forcément des dégâts, des problèmes sanitaires pour les caves d'onde qui sont inondées, mais également la dégradation de biens finalement hein, dans la cave. Je prends l'exemple de Samy qui expliquait qu'il avait perdu une chaîne IFI. Il expliquait que c'était plus pour la valeur sentimentale. Après, il y a aussi une question d'assurance, mais il n'avait plus non plus les papiers, etc., de sa chaîne IFI, enfin du moins l'assurance de sa chaîne IFI pour se faire rembourser. Donc enfin bref, c'est plein de problématiques qui font que c'est quand même un sacré problème d'avoir sa cave inondée.
Oui, on le souhaite à personne, bien évidemment.
La suite ?
Bah oui, après ce sujet, il est temps de changer d'ambiance, un changement d'ambiance radical que j'attends à chaque émission. Et je vous embêterai à chaque émission en vous disant que c'est l'heure de la musique espagnole. Et tout de suite, donc, sur RPL Radio, on part dans un style un peu différent de ce qu'on vous propose d'habitude en musique espagnole. C'est Quizás, Quizás, Quizás de Gaby Moreno.
RPL Radio.
Siempre que te pregunto que cuándo
cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Y pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
Une musique magnifique, vraiment, waouh, j'ai les larmes aux yeux. Vous me dites si j'en fais trop. Non, musique sortie en 2012 par Gabi Moreno, musique très agréable, qui change un peu, ça m'a pensé quoi?
Ça va, c'est cool.
Cool. Bah voilà, vraiment très contente cette fois, j'ai rien d'autre à dire, mais très belle musique.
C'est fait pour donc la musique espagnole du mois d'avril. La suite de l'émission, vous êtes toujours sur RPL Radio, sur Lambersart en ondes, et donc on va parler de la chronique patrimoine. Elle est là, wouh, Pauline en studio pour nous la faire, qui a travaillé donc son texte toute l'après-midi.
Exactement.
Et on t'écoute, Pauline, on y va.
Ça n'a jamais été aussi vrai. Chers auditeurs, ça y est, elle fait son grand retour. Comme moi, je le sais, vous trépignez sûrement d'impatience, pressée d'en découvrir un peu plus sur le patrimoine de notre ville. Alors toujours plus grande, toujours plus forte et toujours plus belle, nous découvrons aujourd'hui une nouvelle villa, j'ai nommé la Villa Sdez. Au 309 avenue de l'Hippodrome, toujours cette même avenue, vous découvrirez cette petite merveille du style Art déco. Point vocabulaire, qu'est-ce que le style Art déco ? Je vous donne la réponse tout de suite, ne vous inquiétez pas. Développé dans les années 20, il se caractérise par des lignes droites, des formes épurées et géométriques. Nous sommes bien loin de la Villa Saint-Charles que nous avions visitée il y a quelques mois. Sdez donc est bien plus moderne que ce que nous avons déjà pu voir, et elle détonne dans l'avenue. Des murs et des fenêtres arrondies, de grandes vitres et une terrasse qui surplombe des murs de briques orangeâtres. Je le sais, ma description ne fait sûrement pas rêver, mais que voulez-vous ? Je préfère le charme de l'ancien. Malgré tout, la bâtisse vaut le détour, je vous l'assure. Pour revenir un peu dans l'histoire, elle a été réalisée en 1933 par l'architecte lillois Marcel Boudin, pour Paul Sdez, d'où le nom, ingénieur et patron de blanchisserie. Pour ce qui est du style, on parle de streamline, c'est-à-dire un style de paquebot. C'est à cela que sont dues la forme des murs, les fenêtres en forme de hublot, même si, j'avoue qu'en regardant le tout, je me suis pas sentie transportée par les vagues. Mais l'idée est là, et ça, c'est le plus important, il faut toujours le saluer. Autre information, et pas des moindres, la maison est inspirée de la villa Carvois. C'est l'un des bijoux architecturaux du Nord les plus connus. L'inspiration est évidente, et pour cause, notre Marcel Boudin était l'élève de Robert Mallet Stevens, j'espère que je le prononce bien, l'architecte à l'origine de la villa Carvois. D'ailleurs, petit conseil sorti, si vous n'avez jamais visité cette villa, n'hésitez pas. C'est un véritable château moderne avec ses 2800 m² de plancher et sa façade de 60 mètres de long. Il y a de quoi voir.
Merci beaucoup Pauline pour cette chronique patrimoine donc sur la villa Sdez à Lambersart, avenue de l'Hippodrome
au 309. N'hésitez pas à passer faire un tour. Et on enchaîne ? C'est l'heure maintenant d'enchaîner et de terminer cette émission parce que oui, c'est passé vite. On est aussi triste que vous, mais on vous retrouvera de toute façon pour l'émission du mois prochain. Mais avant de se quitter, on ne vous laisse pas comme ça, nous. Il y a l'agenda du mois avec toi, Victor.
Que voir, que faire, l'agenda du mois, c'est maintenant sur RPL.
Et oui, votre programme du mois d'avril, un mois que l'on espère ensoleillé. Je vais commencer avec les incontournables, la marche nordique, le repère café. Vous commencez à en avoir l'habitude pour ce sport populaire dans les pays scandinaves avec ses bâtons. Ça se passe le mardi 16 avril au départ du Colisée à 14h30. Je rappelle que l'adhésion est obligatoire. Pensez à vous rapprocher du Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui l'organise. pour les réparations d'objets du quotidien, c'est le jeudi 18 avril au Castel Saint-Gérard de 18h à 20h. Vélo, machine à coudre, petit électroménager, les vêtements, tout ce que vous voulez, un seul objet par personne néanmoins. J'enchaîne à présent avec l'un des plus gros événements du mois au Colisée. Je vais prendre un peu plus de temps dans cet agenda du mois pour en parler. Une exposition pluridisciplinaire assez inédite, une première pour la ville, qui va voir deux associations s'unir, le Club Photo et les artistes Lambersartois, dans l'optique de proposer des œuvres autour du thème de Lambersart, son patrimoine, sa vie quotidienne, sa faune, sa flore, ses fêtes, bref, plein d'éléments. Avec donc d'un côté le Club Photo et ses photographes, ils seront 14 à proposer des photos, et de l'autre, les Lambersartois et ses artistes, 30 sur les 80, à partager leur œuvre. Certains ont été réalisés en collaboration avec un photographe, un jury composé d'un membre de chaque association, de l'élu adjointe à la culture et de membres du service culture patrimoine de la ville, ont tous procédé à une sélection en veillant à n'exclure aucun des artistes et photographes amateurs. Vous pourrez ainsi donc admirer des peintures, des aquarelles, des dessins, de la peinture sur porte de laine, des gravures, des sculptures, des reproductions de vitraux sur le thème de Lambersart. Ça dure un mois. Notez bien les dates du samedi 20 avril au dimanche 19 mai sur les horaires que vous connaissez du Colisée, c'est-à-dire du mercredi au dimanche de 13h à 18h. À mon avis, donc, ça vaudra le détour, donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est gratuit. Et il y aura également des ateliers parents-enfants qui seront organisés à côté tout au long du mois par les associations. Par exemple, petit exemple, un atelier création de vitrail les dimanches 21 avril et 5 mai. Vous retrouverez le reste sur le site de la mairie. Dans la suite de votre calendrier, un moment convivial au jardin partagé du Béguinage. Vous connaissez le principe, ce sera des jeux de société et les suites des semis au programme. Pour donc ce moment convivial, le mercredi 24 avril, entre 14h et 16h30. Et pour en finir, des braderies, dont une dans le quartier de la radio, au Paco Vendrac, je vais en parler, ça nous tient à cœur. Elle aura lieu le dimanche 19 mai prochain, de 8h à 14h. Alors c'est loin, oui, mais il faut penser à vous inscrire si vous voulez un stand. Cela se passe auprès du centre Lino Ventura, au 1er avenue du Parc, avec différentes permanences, le mercredi 24 avril par exemple en fin de journée, samedi 27 avril en matinée pour vous inscrire donc pour cette braderie du Paco Vendrac le 19 mai prochain de 8h à 14h. Voilà pour l'agenda du mois, allégé finalement par rapport aux autres mois, mais avec des événements hyper intéressants et notamment cette exposition au Colisée avec donc deux associations, le Club Photo et les artistes Lambersartois.
Merci beaucoup Victor. Et je me permets de rajouter une petite info pour l'agenda si jamais vous écoutez l'émission le jour de sa sortie, dimanche 14. Il y a la cérémonie de fin des fenêtres qui parlent, donc voilà. Déambulation.
Et on en avait parlé en plus.
Ouais, on en avait déjà parlé. Et si jamais vous écoutez notre émission après et que vous avez malheureusement loupé l'événement, sachez qu'on y sera. Et qu'on fera pour vous un reportage. Voilà, je spoil un peu le reportage du mois de mai, un des reportages du mois de mai. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour si vous nous écoutez dimanche 14.
Entre quelle heure et quelle heure, du coup, avec précision ?
Ça démarre à 14h.
Ok, ça marche. Donc la précision est donnée. Et donc voilà, pour cet agenda.
Voilà, donc merci beaucoup, du coup, Victor. Beaucoup de choses au programme. Il va être temps maintenant de conclure cette émission. Malheureusement.
Et oui, cette 6e édition de Lambersart en ondes.
C'est passé super vite encore, toujours aussi heureux de faire cette émission.
Et oui, avec des formats différents. On a réédité l'interview un peu plus longue.
Ouais, on a beaucoup aimé faire ce format première fois. C'est de même pour la seconde fois. On espère pouvoir recommencer.
Jamais 203.
Exactement, on espère. N'hésitez pas si vous avez des idées d'invités, de personnes que vous voulez essayer de rencontrer un peu plus personnellement, des acteurs de la ville qu'on pourrait rencontrer pour vous. En tout cas, pour nous, c'est un super bon exercice.
Voilà. N'hésitez pas justement à vous manifester sur le groupe Facebook. Nous sommes Lambersartois, c'est essentiellement là où on communique. Donc si jamais vous voyez un post sur l'émission, dans la barre des commentaires, n'hésitez pas si vous avez vu un sujet que vous aimeriez qu'on évoque ou une personnalité peut-être de la ville, comme Frédéric Dehaze, comme Nicolas Bouche, on serait ravis de pouvoir rencontrer d'autres personnes et les accueillir dans ce joli studio. Donc voilà, n'hésitez pas. Et merci pour votre fidélité. Merci d'avoir écouté. Vous êtes nombreux à nous écouter. Je pense notamment à des gens que je connais qui nous ont écoutés par pur hasard. Donc voilà, c'est vraiment top. Et voilà, on se retrouve le mois prochain.
Ouais, franchement, merci beaucoup. On espère encore que l'émission vous plaît. Il va être l'heure de nous quitter, mais on ne se quitte pas sans rien. On se quitte en musique, encore une fois. On va se quitter cette fois-ci avec Mon cœur, une chanson de la chanteuse Isia, que j'apprécie particulièrement, une chanson très sympa, vous allez voir, j'espère que vous connaissez ou que vous découvrirez avec nous. En tout cas, pour ma part, on se dit au mois prochain. Salut Victor.
Salut Pauline et à bientôt sur les ondes.
Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur, et ton battement s'accélère. Je vais finir par te perdre.